Donc, je vous remercie d'être là, même si c'est dans vos... Et oui, vous étiez un peu obligé, mais quand même, vous allez être très content d'être là. Donc, merci d'être là, et surtout merci à Lydia Uziel, qui est donc venue nous voir depuis Cambridge, Boston en gros, et qui est donc, comme vous voyez écrit à l'écran, directrice de la division des langues occidentales et conservatrice pour l'Europe de l'Ouest à la bibliothèque de Harvard. Elle fait partie du programme des chercheurs invités de l'ENSIB, donc la promotion 2016, et elle est là pour une dizaine de jours, là, donc là c'est en gros le deuxième jour. Elle fait cette présentation ici, elle refera une présentation le 13 sur un autre sujet, bon, je vous laisserai expliquer. Et puis surtout, si vous avez le désir de vous entretenir avec Lydia pendant ces 10 jours, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec elle. Elle a dit hier qu'il n'y avait pas de soucis, donc si ça peut être intéressant pour vous, bah, d'abord de discuter de c'est quoi Harvard Library, ça ressemble à quoi alors, voilà. Un petit peu de curiosité, de bibliotourisme, ou tout simplement parce que c'est utile pour votre mémoire, pour vos recherches, pour vos stages, etc. N'hésitez surtout pas. Voilà. Et ben, moi, je te passe la parole pour cette présentation qui est en français.
Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Lydia Uziel. Et tout d'abord, je voudrais remercier la directrice à la direction de l'ENSIB, ainsi que Raphaël, pour m'avoir invitée ici pour passer 8 jours consécutifs et pour me donner une opportunité vraiment unique de faire 2 présentations autour des sujets qui se rapportent aux bibliothèques universitaires nord-américaines aux États-Unis. Et d'une manière générale au sujet lié au développement des collections. Je suis donc vraiment très très heureuse d'être là, et comme Raphaël vient de le dire, si vous voulez discuter de choses qui se rapportent aux bibliothèques nord-américaines, du développement des collections, ou tout un, si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment très très heureuse de vous rencontrer en groupe ou personnellement pour discuter de quoi que ce soit. Alors je suis là cette semaine et la semaine prochaine, alors n'hésitez pas. Ça me fera vraiment plaisir. Alors la présentation d'aujourd'hui, c'est pérenniser l'éphémère, archivage des sources primaires et des médias sociaux dans les bibliothèques de recherche nord-américaines. Je donnerai une autre présentation la semaine prochaine, qui sera le jeudi le 13. Le titre de cette présentation, c'est « La place du livre numérique dans les bibliothèques de recherche nord-américaines et le changement des politiques documentaires ». Voilà, alors la conférence d'aujourd'hui, juste pour vous donner de le définir dont je vais parler. Alors, aujourd'hui, cette conférence aura 4 parties. Dans la première partie, je commencerai pour vous donner une petite introduction à la bibliothèque de Harvard, parce qu'en fait, il faut comprendre ce que c'est. Je vous présenterai aussi la bibliothèque de Widener, la bibliothèque où je travaille. Et aussi, je vous présenterai mon département où je travaille, le département de langue occidentale, et je présenterai un peu aussi sa politique de développement de collection. Ensuite, dans la deuxième partie de cette présentation, j'expliquerai en fait le sujet principal de cette conférence, qui est le contenu éphémère, les sources primaires, ce qu'on appelle en anglais Primary Source Unique Distinctive Collections, alors le contenu distinctif, collection unique. J'expliquerai aussi leur importance grandissante dans les bibliothèques universitaires et bibliothèques de recherche aux États-Unis. Et je parlais aussi des changements du développement des collections qui en résultent. Dans la troisième partie, je parlerai de mécanismes de diffusion ainsi que de stratégies de collecte et de pérennisation du contenu éphémère, de sources primaires, aux États-Unis. Et finalement, à la fin, je vous présenterai un cas pratique qu'on a fait à Harvard. Je parlerai de la construction d'un fonds d'archives sur les attaques contre Charlie Hebdo en janvier 2015 par la bibliothèque d'Harvard. Alors, c'est un projet qu'on a réalisé sur lequel on travaille déjà depuis 2 ans. C'est vraiment très intéressant. Alors, je choisis de présenter ce sujet pour des raisons vraiment bien précises, parce qu'on voit dans les bibliothèques nord-américaines une importance vraiment grandissante de documents éphémères, de sources primaires. Par exemple, de traces digitales imprimées de manifestations, d'expressions individuelles et collectives qui soient liées aux événements sociopolitiques courants d'un pays. Ça nous intéresse vraiment. Et les archivistes et les conservateurs de bibliothèques se retrouvent vraiment confrontés de plus en plus à cette forme vraiment très volatile du document qu'on doit archiver. Alors cette conférence se concentrera sur la question de la collecte et de l'archivage de cette nouvelle forme d'expression. Et ce que j'aimerais faire, c'est vraiment un peu de démythifier ce nouveau phénomène et aussi de vous expliquer le mécanisme de diffusion, mais aussi comment on envisage et on construit des stratégies de collecte et de pérennisation de ce type de matériel. Alors, côté pratique, cette conférence prendra à peu près 1h15. Après ça, on aura des questions, mais de toute façon, je voudrais vous encourager de me poser des questions au cours des représentations. S'il y a des notions ou des concepts que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à lever la main et de me poser des questions, parce que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ce sera vraiment le moment de l'expliquer au cours de la présentation. Je voudrais aussi vous dire que, bien sûr, cette présentation est en français, mais il y a des citations en anglais. Il y a aussi quelques pages, en fait, qui soient en anglais. Et ça aussi pour deux raisons bien précises. Premièrement, je vais traduire verbalement tous les contenus de cette présentation en français pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Et deuxièmement, c'est important, je pense que c'est vraiment très important de voir la citation en anglais pour vraiment saisir le sens pour ceux qui lisent anglais, qui comprennent anglais. Alors je pense que ça sera bon pour tout le monde, pour garder un peu l'originalité. Alors, on va commencer maintenant à la première partie, à la présentation de la bibliothèque de Harvard, de la bibliothèque de Widener et mon département de langue occidentale. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro marche bien? Ça va? Bon, très bien. Alors, la bibliothèque de Harvard, en fait, la bibliothèque, ce n'est pas une seule bibliothèque. En fait, c'est un réseau de plusieurs bibliothèques de l'Université de Harvard. Ce réseau comprend 73 bibliothèques au total. Ces bibliothèques-là sont vraiment dispersées géographiquement à Cambridge, ville près de Boston. On a aussi deux bibliothèques qui sont à Washington DC et aussi une bibliothèque en Italie, ce qui est vraiment assez particulier. On a à peu près 18 millions de volumes, si on compte sur la base du nombre d'éléments détenus, y compris de partitions musicales, de cartes, estampes, d'enregistrements et bien sûr tout ce qui est imprimé. Aussi, c'est le plus ancien réseau de bibliothèques aux États-Unis et c'est aussi la plus grande bibliothèque universitaire et le plus grand système de bibliothèques privées dans le monde. Alors, les noms qu'on utilise, la bibliothèque de Harvard, c'est en fait le nom formel pour une entité administrative qui se trouve au sein de l'administration centrale de l'Université d'Harvard et qui est responsable de gérer le service de toutes ces bibliothèques au niveau central et en fait elle aussi assume la gestion politique de la bibliothèque d'une manière générale. Alors moi je travaille dans la bibliothèque l'une des bibliothèques centrales, la plus grande bibliothèque, ce qui est la bibliothèque de Widener, où se trouve aussi mon département de langue occidentale. La bibliothèque de Widener, c'est la pièce maîtresse, en fait, du réseau des bibliothèques de l'université, avec de très très riches collections, principalement en lettres, en sciences humaines et aussi en sciences sociales, provenant du monde entier. On couvre tous les 5 continents. Et les collections, on collecte en fait des matériaux dans plus de 100 langues partout dans le monde. Parmi les collections les plus exemplaires, les plus riches, Vous pouvez trouver des fonds uniques pour soutenir l'enseignement et la recherche en lettres, en sciences humaines, sciences sociales, couvrant vraiment une très très grande diversité d'aires géographiques, notamment dans le domaine des études et des cultures du continent américain, de l'histoire locale de l'Europe, des études de judaïsme, des études latino-américaines, des études du Moyen-Orient, des études de l'ère de culture slave, des études asiatiques, et bien au-delà. Alors, une histoire de cette bibliothèque, si un jour vous êtes à Boston et à Cambridge, je vous invite vraiment à visiter le campus d'Harvard parce que c'est vraiment très très beau à voir, et la bibliothèque d'Harvard, à découvrir cette bibliothèque qui est vraiment liée à la tragédie de Titanic, parce que le bâtiment a été construit il y a 100 ans, et en fait... à la fin, si on a un peu le temps, je peux vous dire un peu d'histoire de ça, mais tout simplement, je vais mentionner ici que cette bibliothèque a été construite grâce à une donation financière de Madame Widener. Et le bâtiment, en fait, c'est un mémorial à son fils qui était en fait étudiant à Harvard en 1907, un jeune bibliophile enthousiaste qui a péri à bord du Titanic, en fait, suite à son décès. Sa mère a donné une partie de sa fortune pour construire cette bibliothèque. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil historique. Maintenant, j'aimerais juste dire quelques mots par rapport au département où je travaille. Alors, le département de langue occidentale, dont je suis la responsable, ce département est chargé principalement de développement de collections en sciences humaines et en sciences sociales. Alors, on achète des ressources, des collections imprimées, numériques, tout ce qui est publié soit dans les pays de l'Europe occidentale, par exemple la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, Benelux, pays de Scandinavie, même les petits pays comme la Roumanie, l'Albanie, la Hongrie. Et on est aussi responsable d'une zone géographique anglophone, alors des États-Unis et des pays de Commonwealth, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les îles anglophones du Pacifique, aussi Irlande. Alors, c'est ça ce qu'on fait principalement. Alors, géographiquement, on achète des collections de 31 pays. Linguistiquement, on achète, bien sûr, principalement des publications dans la langue principale du pays. Mais aussi on achète dans toutes les langues qui soient publiées dans un pays concerné. Par exemple, en ce qui concerne la France, on achète essentiellement ce qui se publie en France en français, mais bien sûr, on va acheter dans d'autres langues aussi tout ce qui est publié en France. Pas tout, mais bien sûr, d'une manière générale. Notre budget annuel pour développement des collections est assez consistant. Il s'élève à peu près à 6,8 millions de dollars. Et on dépense à peu près 4 millions sur des publications imprimées. Et le reste, en fait, autour de 10 millions, ce sont des ressources électroniques. Et d'une manière générale, on achète à peu près 75 titres imprimés par année au total de tous ces pays, plus une multitude de ressources électroniques, incluant des livres, en fait, des livres numériques, bases de données, des ouvrages de référence, des index, etc. Par exemple, on achète à peu près 10 000 titres en français publiés en Europe, en France, en Belgique et en Suisse. Et en fait, notre mission principale de notre division, c'est de développer des collections de recherche en se focalisant principalement sur des publications courantes contemporaines, ce qu'on appelle en anglais un mainstream publishing output. Et ceci constitue à peu près 80% de nos activités. Et dans certaines disciplines, en sciences humaines et en sciences sociales, nos collections supportent directement la recherche et l'enseignement à Harvard. Dans d'autres domaines, nos collections supportent non seulement la recherche et l'enseignement de l'université, mais on collecte pour ce qu'on appelle en anglais Library of Record, créer une bibliothèque exhaustive dans l'objectif d'acquérir et de préserver une copie d'une publication particulière publiée dans une discipline quelconque dans n'importe quel pays du monde qu'on couvre. Et en fait, la bibliothèque de Harvard sert, bien sûr, non officiellement au rôle de dépôt légal pour les États-Unis. Alors, c'est ça aussi une particularité du développement des collections chez nous. En dehors des collections de recherche et des publications courantes contemporaines, nos collections, on collecte aussi des livres rares et des sources primaires, ce qu'on appelle The Primary Source Unique Distinctive Collections, incluant toutes sortes d'expressions écrites, manuscrites, des objets et aussi tout ce qui est numérique. Et ceci constitue à peu près 20% de nos activités. Et la bibliothèque de Harvard, de Widener, a vraiment une très très longue histoire de collecter ce type de collection, de collecter ces éphémères, avec un accent bien particulier mis sur des collections de ressources du XXe siècle et sur des collections qui se rapportent aux événements sociopolitiques récents dans le monde entier ou dans un pays concerné. C'est pourquoi notre division est très active en ce qui concerne la collecte des éphémères, des éphéméras qui documentent les événements historiques récents ou courants ayant lieu en Europe occidentale ou en Amérique du Nord, dans des pays anglophones. Et c'est même vraiment devenu un objectif très important durant quelques années récentes, et tout cela à cause des tendances qu'on voit dans l'enseignement et dans la recherche aux États-Unis. Alors on voit que les professeurs et les chercheurs vont incorporer des sources primaires directement dans leurs activités de recherche et de l'enseignement. Et ceci, cette incorporation grandissante de ce type de matériaux, en fait, cause des changements importants dans des politiques de développement de collections. Et on va se focaliser de plus en plus sur l'acquisition de ce type de matériaux. Alors, maintenant, on va passer à la... Oui.
Je voulais savoir, est-ce que des documents de type Wikileaks, vous les conservez, ou vous faites l'acquisition et vous les mettez en consultation publique?
En fait, ça dépend. En fait, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, rien en ce qui concerne Wikileaks, mais ça peut se faire. Je vois une possibilité dans l'avenir qu'on pourra le collecter. Pour l'instant, parce qu'on se... Je veux parler en fait de ressources numériques, parce que c'est un défi assez consistant et c'est très très compliqué. Mais je pense que dans l'avenir, ça constituera peut-être une partie de nos développements de collection. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? On peut en discuter après, quand je veux toucher en fait à tout ce qui est le numérique, en fait, parce que ça, je pense que ça illustre en fait cette partie numérique de tout ce qui est éphémère, de tout ce qui peut disparaître. Alors, tout simplement pour définir le concept, un petit regard historique, il faut savoir qu'il y a 80 ans, dans les années 30, aux États-Unis et dans des pays anglophones, par exemple à la bibliothèque d'Oxford en Angleterre, on éliminait tout ce qui est éphémère, tout ce qui est ce type de, en fait, du matériel éphémère, parce qu'on pensait que ce type de collection n'avait aucune valeur pour la recherche. Comme en témoigne en fait cet extrait du Bodleian Library Record de 1938 qui décrit cet impératif en fait d'éliminer ce type de matériaux et de ne pas l'inclure dans des collections. C'est seulement dans les années 60 que ça change dans les pays anglophones. Au départ, on a vraiment manqué de termes pour désigner en fait ces imprimés, ces types de manuscrits qui étaient considérés très disparates et qui en fait échappaient à la contrôle, en fait au contrôle bibliographique. Finalement, dans les années 60, le terme printed ephemera émerge en Angleterre. Et c'est comme ça qu'on commence à nommer ces types de matériaux, en fait, des éphéméras. Et par la suite, ce terme est quasiment devenu une discipline en elle-même, avec la formation des infirmières societies, notamment dans le Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou encore en Danemark. Et je pense que vous, les Français, vous avez bien devancé tout ça avec une œuvre de Carteret, Vieux papier, vieilles images, de 1896, où c'était défini d'une manière plus ou moins qui se rapproche à la définition anglo-saxonne. Mais je pense que, d'après ce que je sais, mais vous pouvez me corriger si vous en savez plus, mais d'après ce que je sais, ce n'est qu'assez récemment que le mot éphémère a été adopté en France, dans la bibliothéconomie, avec le livre L'éphémère, l'occasionnel et le non-livre de Nicolas Petit de 1997. L'exposition d'Alain Marchal Ephemera au musée de l'imprimerie de Lyon en 2001, et enfin avec le numéro 10 de la revue de la Bibliothèque nationale de France, l'Éphémère de 2002. Aux États-Unis, et ça c'est vraiment des citations en anglais, excusez-moi, mais je vais le traduire, pendant les 20 dernières années, vraiment c'est une période de conceptualisation excessive, vraiment très très intense du terme, de ce terme, de Primary Source Unique Distinctive Collections. Deborah Jacobs souligne une importance de relation entre le conservateur et le chercheur quand on collecte ce type de matériaux, ainsi que leur engagement dans les disciplines concernées. Nicola Baker définit ce concept de collection distinctive en tant que des ressources qui, par leur unicité, en fait, différencient l'une bibliothèque de l'autre. Alice Puralska, qui est la directrice de la bibliothèque de Yale, parle même d'un aspect œcuménique de Primary Source Unique Distinctive Collections en l'identifiant à la marge de collections spéciales, de livres rares, etc. Dan Hazen, qui était en fait un fameux bibliothécaire à Harvard, définit ce type de matériaux en tant que, il dit en anglais, unique quantifiers of excellence. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça, probablement quantificateur d'excellence par vraiment d'unicité de quelque chose qui est vraiment exceptionnel, parmi des collections de bibliothèques universitaires et de recherche. Et plus récemment, mon collègue Rick Anderson parle de la dichotomie qui existe dans les bibliothèques de recherche aux États-Unis. Il constate que cette dichotomie, ce n'est pas entre l'imprimé et le numérique, une dichotomie traditionnelle, parce que c'est ça toujours qu'on voit. D'habitude, on parle que de ça, de la différence entre l'imprimé et le numérique. Lui, il pense que c'est plutôt la dichotomie entre les modalités d'acquisition, entre ce qui s'acquiert facilement et ce qui est très facile à acheter, à acquérir, à préserver, à cataloguer, et entre ce qui ne s'achète pas facilement, ce qui est vraiment très très difficile à obtenir. Alors il pense qu'aujourd'hui le rôle de la bibliothèque de recherche devient celle d'acheteur, de conservateur, de ressources de recherche qui soient vraiment qui soient uniques, distinctifs et qui ne sont pas faciles à acquérir. Et il voit une grande opportunité pour des bibliothèques universitaires de recherche aux États-Unis. Il pense qu'elles devraient investir de plus en plus dans ce type de matériel qui maintenant est toujours à la marge. Et il pense que ce type de matériel devrait devenir bien plus important. Voire prendre une place au centre des acquisitions. Au niveau de définition, si on définit ce concept, il faut aussi savoir, connaître ce rapport, ce fameux rapport qui était produit récemment, en 2014, par le consortium de bibliothèques de recherche en Angleterre. Et ce rapport vraiment définit ce terme, Primary Source Unique Distinctive Collection. On approfondit en y examinant toutes les facettes, en fait. Moi, je retiens quelques notions qui soient vraiment très importantes pour nous en ce qui concerne de ce type de ressources. Et cette définition dit que ces ressources qui soient vraiment dans tous les formats, et indépendamment de leur place dans la bibliothèque. Parce qu'en fait, ces ressources peuvent se trouver, être traitées non seulement par des services des archives, mais aussi par des collections générales, de livres rares, de collections spéciales, mais aussi par des collections générales qui contiennent en fait majoritairement des publications courantes contemporaines. Et il faut aussi que ces collections soient uniques, irremplaçables, pas tellement maintenant, mais peut-être dans 50 ans, ils seront vraiment irremplaçables et uniques en apportant une valeur exceptionnelle pour la recherche. Voilà, c'est ça la définition. À Harvard, on a aussi quelques définitions bien précises par rapport à ces collections. Au niveau des origines, on pense que ce type de documents, alors ça peut provenir de tout type de groupes sociaux, politiques ou bien d'autres, qui soient définis ou qui se définissent par un statut juridique ou social bien précis, quelconque. Au niveau de format, on inclut des imprimés, des manuscrits, on inclut aussi des objets tangibles, des publications toutes sortes, sous forme de brochures, de prospectus, des clients, des papiers de position, des minutes de réunion, des feuilles d'information, des bulletins, des dépliants, des affiches, des badges, des magazines, etc. Et au niveau de l'édition, des publications, ce type de matériaux soit vraiment produit par des organismes non commerciaux et non traditionnels et qui ne sont pas systématiquement distribués et capturés par des réseaux d'acquisition habituels. Alors c'est ça vraiment une distinction pour nous à Harvard. En conséquence, ces matériaux sont de plus en plus souvent très difficile à obtenir par les bibliothèques et il faut toujours un effort bien particulier pour les trouver et pour les acquérir. Le développement de cette définition, alors pourquoi, en quoi ces ressources soient vraiment uniques pour nous dans le contexte en fait de la recherche et de l'enseignement à Harvard, parce qu'ils offrent vraiment un témoignage unique par rapport aux événements sociaux, culturels, économiques et politiques. Il s'agit souvent des aspects qui soient sous-représentés dans des publications courantes. Alors ça aussi vraiment un aspect très important. Au niveau de leur signifiance pour la recherche, ce type de ressources sont très importants à cause de leur nature éphémère, fugitive, mais aussi parce qu'ils sont produits en dehors de circuits commerciaux, en dehors de circuits officiels, et se rapportent thématiquement à une grande variété de questions politiques, économiques, sociales, idéologiques, culturelles, d'actualité. Et en fait, la deuxième nuance très très importante, c'est le danger de disparition. Ça, c'est aussi l'élément très important pour nous, comment on définit ce type de ressources. Alors, les ressources qui risquent de disparaître, qui ne soient pas collectées, les ressources qui seront définitivement incluses dans cette catégorie. Voilà, c'est à peu près comment on définit Harvard. Il y a pas mal de recherches aux États-Unis qui confirment cette importance grandissante des éphéméras dans la recherche en sciences sociales et en sciences humaines aux États-Unis. Alors, je vais juste citer une étude très très importante, qui est une étude d'Ithaca, qui en fait fait des études dans tous les enseignements, dans toutes les en fait des universités de recherche sur les continents américains. Et ils ont fait cette étude et environ trois quarts de répondants des établissements de recherche aux États-Unis qu'ils ont interviewés. Alors, ils ont interviewé le plus important des universités en sciences humaines et sciences sociales sur le continent américain. Ils considèrent que l'acquisition, le maintien et la numérisation de ce type de ressources est vraiment très, très important. Alors, on voit ça non seulement, on voit la prise de conscience non seulement par des bibliothécaires, des conservateurs, mais aussi par des chercheurs et notamment par des chercheurs, des doctorants, des étudiants qui font de la recherche. Mais en fait, pourquoi ? On se pose une question, pourquoi ça devient si important ? Alors moi, j'ai une théorie bien précise. Pourquoi les éphéméras, les sources primaires, pourquoi elles deviennent de plus en plus importantes dans les bibliothèques et les universités aux États-Unis. Alors en 2015, j'ai fait une présentation à la conférence d'IFLA en Afrique du Sud où j'en parle en détail. Alors je vais vous faire une petite présentation en fait théorique là-dessus. Je vais parler en fait du concept bien précis qui existe aux États-Unis dans les sciences de l'information, qui est en fait Collection and Content Centered Stewardship. C'est vraiment un concept qui se rapporte au développement de collections. C'est très difficile à traduire. Moi, je l'ai traduit en français en tant qu'une nouvelle méthodologie pour la gérance ou la gestion des collections qui soient maintenant centrées sur le contenu, vraiment sur le contenu, c'est pas centré sur la forme, et qui supportent des pratiques de recherche en sciences humaines et en sciences sociales, pratiques qui changent, qui sont en train de changer constamment et progressivement. Voilà, alors pour comprendre de quoi je parle, il faut vraiment comprendre comment la recherche change maintenant aux États-Unis, et particulièrement en sciences humaines et en sciences sociales. Alors, nous savons que nous vivons dans un environnement académique qui a changé durant les dernières 15 années, vraiment très, 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 très rapidement. C'est un monde universitaire qui est vraiment profondément globalisé. On a des étudiants de partout qui viennent du monde entier, des pays du monde entier, et qui, en fait, cet environnement pose de plus en plus de défis et de difficultés pour des bibliothèques de recherche, parce qu'il faut vraiment fournir des types de matériaux qui soient pertinents pour ce nouveau type de public qu'on a dans des universités. Alors, en dehors de ça, on voit aussi des attitudes envers la collecte des données qui ont vraiment profondément changé parmi, en fait, durant les 20, 15, 10 derniers passés. Alors, tout ça à cause de l'environnement académique, de l'évolution technologique omniprésente. On voit que le phénomène, en fait, des méthodes d'évaluation et des analyses des données, ce qu'on appelle assessment, aux États-Unis, c'est le concept d'assessment, devient de plus en plus important, sont de plus en plus au cœur en fait, du processus de recherche en sciences humaines et en sciences sociales. Alors, il faut vraiment des données primaires pour tout, pour étudier un phénomène. Et on voit ça non seulement maintenant dans les sciences sociales, mais aussi dans les sciences humaines. En fait, les gens qui font la littérature, l'histoire, ils veulent des données, ils veulent des données primaires. Alors, pour ça, tout ça, en fait, s'inscrit dans un contexte de recherche bien particulier parce qu'on voit des tendances avec ce qu'on appelle « data mining », en fait, analyse de données très consistantes, en fait, de « big data ». On voit des phénomènes de visualisation des données primaires. On analyse des données de façon vraiment très différente. Et tout ça devient de plus en plus important. Et c'est le recours, en dehors de tout ça, on a aussi le recours à des méthodologies interdisciplinaires qui, en fait, mettent accent et ont mis de plus en plus sur des questions de recherche, d'apprentissage non traditionnel. En fait, tout cela contribue de plus en plus à une incorporation de ressources distinctives, des données uniques, difficiles à trouver, des sources primaires au cœur de recherche académique. Et c'est pour cela que tout cela a un impact bien considérable sur le développement des collections. Alors, il faut évoluer, il faut suivre les évolutions dans la recherche. Et notre objectif, en fait, dans la bibliothèque, c'est vraiment de répondre à ces changements dans la recherche d'une manière responsable et pouvoir satisfaire en fait les exigences de nos professeurs et de nos chercheurs maintenant. Alors, ce qui se produit aussi avec tous ces changements dans les bibliothèques universitaires, et à Harvard on le voit vraiment très très distinctivement, c'est que le service traditionnel, un service de bibliothèque, le service de développement des collections, mais aussi les services d'assistance aux usagers, change en fait à cause de tout ça. Ils transcendent leurs responsabilités traditionnelles et ils évoluent au-delà du modèle existant traditionnel. Alors, comment ça se fait? Alors, le modèle de référence, un service de bibliothécaire liaison traditionnel ou de conservateur de bibliothèque traditionnel va évoluer vers un modèle nouveau, celui de la gérance, de gestion des collections qui seront centrées sur le contenu. Et cette nouvelle activité dans les bibliothèques de recherche nord-américaines vont se caractériser par une collaboration croissante, vraiment, de partenariat entre le personnel des bibliothèques et les enseignants-chercheurs, les professeurs, les étudiants. Et en fait, cette en étroite collaboration avec les chercheurs, les bibliothécaires, les conservateurs vont maintenant identifier de nouveaux sujets de recherche, réaffirmer en fait leur importance pour l'enseignement et la recherche, et tout ça va résulter on va voir que la gestion, la gérance, l'acquisition, le traitement de ce type de collection, toutes ces responsabilités sont non seulement assumées par le personnel de la bibliothèque, mais aussi par les chercheurs, les étudiants, qui sont de plus en plus impliqués dans ce travail qui, traditionnellement, a été fait par la bibliothèque. Alors, au plan intellectuel, le chercheur va s'impliquer de plus en plus dans le processus d'identification et de sélection de ces sources primaires dans toutes les formes existantes. De l'autre côté, cela permettra en fait d'engager des bibliothécaires, des conservateurs directement dans la recherche, en fait, de travailler avec des professeurs dans la création de connaissances, de participer dans la création de connaissances par les biais de collaboration entre la bibliothèque et l'université. Et sur le plan pratique, en engageant le corps professoral et les étudiants directement dans le traitement de processus de collecte, l'organisation du contenu et son traitement, parfois même sa description, création des métadonnées, en fait, tout ça, en fait, ça contribuera en fait à ce que les frontières qui est faite par la bibliothèque et par le département de recherche vont être de plus en plus floues. Alors, on aura pas mal de défis et opportunités qui vont résulter en fait de toute cette situation. Alors, vraiment étant au centre de la transition constante, les sources primaires auront des implications profondes sur des services des bibliothèques universitaires. Alors, les bibliothécaires, les conservateurs vont assumer des rôles nouveaux, des responsabilités nouvelles pour soutenir ce changement qui se produit dans la recherche et dans l'académie d'une manière générale. Alors, le changement de ces responsabilités, comme je l'ai dit, va se caractériser tout d'abord par la collaboration avec des professeurs et des chercheurs. Cette collaboration sera vraiment nécessaire pour bâtir, pour construire un nouvel type de collection de sources primaires qui sera liée directement à la recherche que des professeurs vont faire. Alors vraiment, c'est un circuit fermé. Alors on va revenir vers la notion, en fait, comment on définit en fait nos développements de collection. Ça ne va pas se faire tout simplement par des conservateurs, par des bibliothécaires, mais ça va se faire en collaboration avec des chercheurs qui seront impliqués dans ce processus. Et ça, bien sûr, nécessitera une construction d'une infrastructure bien précise, technologique, qui posera pas mal de défis. Et il faudra mettre en place de nouveaux arrangements pour, en fait, réussir à mettre en place ce nouveau système. Et maintenant, après cette partie plus théorique, je vais parler un peu de mécanismes de diffusion ainsi que de stratégies de collecte et de pérennisation du contenu éphémère dans les bibliothèques universitaires en Amérique du Nord. Alors, vraiment une force au niveau de stratégie de collecte de ce contenu éphémère, de ce contenu unique, de sources primaires. L'une des forces motrices de la création d'une approche stratégique de la documentation, c'est vraiment une perception professionnelle que les archivistes et les bibliothécaires ont en quelque sorte échoué à leur mission de documenter adéquatement la société, parce que les pratiques d'évaluation actuelles ont abouti à la documentation surabondante ou insuffisante dans certains domaines, tout en laissant les lacunes complètes dans les dossiers documentaires pour d'autres types de matériel. Alors ça, c'était vraiment une définition traditionnelle qui existait dans les bibliothèques universitaires aux États-Unis. Maintenant, avec cette collaboration qui se développe entre les bibliothèques et entre les chercheurs, on voit une méthodologie nouvelle qui guide bien sûr la sélection et qui assure la rétention d'informations adéquates sur une zone géographique spécifique, un sujet, un processus ou un événement qui a été vraiment présent dans la société. Et tout ça, ça va se faire, on va en fait le faire via la collaboration de plus en plus proche avec entre les archivistes, entre les chercheurs. Même, on va même collaborer avec des producteurs de sources primaires, parce que parfois il faut avoir des informations bien précises pour pouvoir traiter certains types de collections. Alors tout ça va changer vraiment comment on fait, comment on développe nos collections et comment en fait on fait le traitement de ce type de collections. Alors, au niveau de stratégie de collecte et de pérennisation de ce contenu éphémère, il faut voir tout d'abord le côté pratique. Alors, la crise financière de 2009 qu'on a vécue aux États-Unis a eu vraiment des conséquences importantes sur le développement de collections dans toutes les universités, même sur Harvard. Le budget des acquisitions ont été réduites considérablement dans des bibliothèques universitaires, et tout ça a causé la mise en place d'une approche de plus en plus stratégique de gestion des allocations budgétaires et les acquisitions de ce type de matériel. Alors parmi les stratégies actuelles qu'on voit, essentiellement à Harvard, il y a plusieurs choses. Alors tout d'abord, on se concentre sur la collecte en fait des titres, des pièces qui complètent des collections existantes, parce que ce type de collection existait depuis en fait des décennies chez nous. Alors on essaye de collecter des titres qui vont améliorer ou mettre en valeur des collections existantes. Une autre stratégie importante, c'est l'acceptation stratégique de grandes et importantes donations. On accepte des donations de collections du monde entier, et comme ça on va créer des fonds uniques, de sources primaires, de collections éphémères. Une autre stratégie, c'est une stratégie de développement de collections nouvelles, en fait de taille moyenne, mais qui auront vraiment potentiel à grandir dans l'avenir. On les fait vraiment à coût très peu élevé, parce qu'on les fait avec en collaboration avec des communautés et des associations, des donations, des particuliers, des associations, de différentes sortes d'institutions, etc. Finalement, on a les achats et le traitement collaboratif des collections. Alors, on achète une collection bien particulière, on collabore avec d'autres universités ou même avec d'autres bibliothèques en ce qui concerne l'achat et le traitement de ce type de collection. Et finalement, un phénomène très répandu aux États-Unis, c'est en fait des collections qu'on appelle collections cachées, hidden collections. Alors, on découvre, on dévoile le contenu qui est caché, qui n'est pas vraiment traité. Et on a ce type de collection aux États-Unis. Alors, ça permet vraiment de mettre en valeur et mettre ce type de collection accessible, de le mettre accessible à nos utilisateurs. Et finalement, bien sûr, pour pouvoir développer ce type de collection, il faut collecter les fonds budgétaires nécessaires. Alors, parfois, on recourt à ce qu'on appelle fundraising. Alors, une partie de responsabilité de conservateur, c'est aussi de créer des liens avec des anciens élèves, des personnalités importantes dans différentes disciplines pour faire des demandes de donations qui permettront de développer ce type de collection parce qu'on ne veut pas utiliser des fonds existants qu'on a. Au niveau des stratégies actuelles de pérennisation, on a bien sûr numérisation des collections existantes qui soient déjà dans nos collections, mais on a aussi ce qu'on appelle l'agrégation du contenu. Je vais en parler, je vais vous donner quelques exemples de tout ça. Alors, pour revenir à ce que je viens de dire, ces stratégies de collecte et de pérennisation du contenu éphémère, je vais vous donner quelques exemples provenant de Harvard. Le premier exemple dont je parle, la concentration sur la collecte des titres, des pièces qui complémentent des collections existantes, qui soient vraiment distinctives et qui vont permettre d'améliorer ou mettre en valeur des collections existantes. Alors, on a vraiment une multitude de collections de sources primaires à Harvard, alors, dans des départements très différents, dans des bibliothèques de Harvard. Alors, c'est très, très difficile de nommer. Alors, tout simplement, j'ai fait quelques exemples ici que vous pouvez voir. On ajoute constamment des sources complémentaires à des collections qui existent. Un autre exemple, ça c'est une collection, une des plus grandes collections qu'on a acceptées à Harvard il y a 5 ans. C'est Santo Domingo Collection, et cette collection vraiment contient des sources primaires très très abondantes. Alors, une personne très très riche de Suisse qui est un investisseur qui, pendant tout au long de sa vie, a créé des collections. C'était vraiment une passion pour lui de créer des collections françaises, des collections européennes dans toutes les langues, et qui s'est vraiment rapporte au sujet très très divers. Mais cette collection particulière, on appelle en anglais, c'est une collection sur le sexe, drugs and rock and roll. Alors, c'est une collection qui permet vraiment de servir, de supporter la recherche dans toutes les disciplines en sciences humaines, en sciences sociales. Alors, on a reçu cette collection il y a 5 ans. Plus de 50 000 de pièces dans cette collection. 80% de cette pièce soit vraiment unique. Alors, comme ça, tout ça a été donné. Et aussi, la personne qui a donné a payé pour le traitement aussi. Alors, c'est comme ça qu'on a acquéri vraiment un contenu important de sources primaires. Et tout ça provenait d'une donation. Ça, c'est un autre exemple dont je viens de parler, de collection cachée. Alors, on a partout dans des bibliothèques à Harvard des collections bien spécifiques qui n'ont pas été traitées à un moment donné quand elles étaient acquéries, parce qu'avant, il faut savoir, avant la politique documentaire aux États-Unis de développement des collections, c'était d'acheter tout ce qu'on peut. On ne s'inquiétait pas tellement de processus de traitement, de catalogage. Il faut vraiment accumuler les collections. On avait cette soif de développer des collections, et parfois on a laissé ces collections pas catalogué. Alors, on savait qu'on en a, alors on n'avait pas soit d'argent, soit de personnel qui pouvait les traiter. Alors maintenant, on a vraiment l'une de, en fait, de, d'objectifs, c'est vraiment d'ouvrir ces collections au monde. Alors, on veut non seulement les traiter, les cataloguer, mais aussi les numériser. Alors, on a vraiment utilisé pas mal de ce qu'on appelle de bourses, de bourses budgétaires bien spécifiques qui proviennent soit des universités ou qui soient en fait les donations. Cet argent est utilisé à ce sujet, à cet objectif pour ouvrir sa collection. Alors ça, c'est aussi une autre manière de développer des collections de sources primaires. Finalement, un autre exemple, en fait, d'un achat collaboratif d'une collection, une collection très très grande, une collection unique de fanzines. Je ne sais pas si vous savez ce que sont les zines, en fait. C'est un phénomène qui existait aux États-Unis, en Europe, avant l'Internet, en fait. Des gens produisaient ou imprimaient, en fait, ces expressions personnelles, en fait, à un nombre limité, en fait, de contenu, et c'était distribué dans des cercles bien particuliers. Alors, il y a quelques années, on a acquis à peu près 20 000 pièces uniques, c'est vraiment le fanzine nord-américain. Et comment on l'a fait? Alors, mon département, nous avons eu de l'argent pour l'acquérir, mais par contre, on n'a pas pu le traiter. Et maintenant, dans notre développement de collection, on ne peut plus déposer tout simplement une collection comme ça et n'a pas les traités. On veut l'ouvrir immédiatement à nos chercheurs. Alors, un autre département, une autre bibliothèque, qui est une bibliothèque à Harvard, a décidé de nous aider parce qu'ils ont en fait du personnel, ils avaient en fait des ressources humaines et ressources financières. Ils ont pris cette collection et ils l'ont traitée complètement. Alors, cette collection est maintenant au cours des catalogages, c'est à peu près fini. Et il y a un autre département, en fait, du service au public qui s'est associé à ce projet. Ils ont travaillé avec nous et avec eux. Ils ont immédiatement, en fait, fait pas mal de publicité parmi des chercheurs, des étudiants à Harvard. Et on a fait quelques projets de ce qu'on appelle des Digital Humanities Projects sur cette collection, des étudiants qui étaient intéressés de travailler là-dessus. Ils ont, en fait, créé des projets à partir de ce contenu. Alors voilà, cette collaboration entre des départements, entre des bibliothèques qui permet en fait d'acquérir une collection comme ça, qui autrement ça ne sera pas possible si on travaillait en fait individuellement sans collaborer. Soit avec nos collègues à la bibliothèque, soit avec des professeurs, des étudiants. Finalement, je vais vous donner un autre exemple de développement des collections en fait de taille moyenne, mais avec un potentiel. Ah bah voilà, oui.
C'est ça pour vous. Quand vous travaillez en collaboration, est-ce qu'il y a un département qui devient propriétaire de la collection ou tout le monde qui a contribué devient propriétaire de la collection?
Alors au niveau la collection devient la propriétaire du département qui l'a acheté. Mais je veux dire, ça, c'est une distinction vraiment très floue parce que tout est propriété d'Harvard, bien que c'est le département qui l'a financé, c'est une bibliothèque qui l'acquiert, mais d'une manière générale, tout est Harvard. Alors, on n'a pas cette territorialité, alors on n'est pas vraiment partagé par ça. Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre question et si j'ai bien répondu à ce que vous voulez dire.
Non,
c'est bon.
J'avais juste une deuxième question. Pour les dons privés, on va dire les particuliers qui vous approchent.
On peut rentrer l'entendre.
Donc, si je comprends bien, il y a des particuliers qui approchent l'Université Harvard qui veulent proposer des collections, on va dire Santo Domingo. Est-ce que c'est arrivé d'avoir des collections sont tellement privés que vous ne pouvez pas les publier en raison d'éléments de protection de la vie personnelle, par exemple?
Oui, ça arrive tout le temps. Alors, ce qu'on a à Harvard, on a le département juridique avec lequel on travaille pour, en fait, d'étudier toutes ces notions pour en fait être sûr qu'on peut en fait ouvrir des collections. Si on peut numériser une collection, il faut en fait une permission au niveau des droits et au niveau de en fait de préservation de tout ce qui est le droit de personne, le droit privé. Ça aussi, on a toujours un juriste dans ce cas-là qui va nous conseiller, qui va en fait conseiller le bibliothécaire ou le conservateur pour faire ce qu'il faut pour ne pas exposer en fait notre université a des en fait de risques d'être poursuivi en justice ou faire des choses qui soient en fait pas légalement qui soient pas comme il faut. Voilà. Alors très rapidement un autre exemple. Je vais passer un tout petit peu la théorie là-dessus, mais je vais très très rapidement vous présenter un autre exemple en fait de collection qui existe à Whitener. C'est une collection sur diaspora. Alors, des communautés diaspora qui existent aux États-Unis et aussi dans le monde entier, on est vraiment, c'est quelque chose qu'on a collecté depuis de décennies à Harvard. Tous les départements, en fait, qui existent à Harvard, en fait, mon département de langue occidentale, mais aussi mes collègues qui collectent, en fait, ce type de ressources des pays slaves, en fait, de l'Afrique, de Moyen-Orient, de pays de l'Amérique latine. Tout le monde collecte ses sources primaires sur les diaspora. Alors, il y a quelques années, on a fait une petite enquête pour voir où on est avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vraiment crée une collection quelconque? Et quelles sont les modalités des acquisitions et, en fait, de collecte de ce type de matériel? Alors, j'ai fait une présentation il y a quelques années à l'American Library Association conférence là-dessus. Alors, on a fait une enquête où on a demandé à tous nos collègues de décrire en fait le contenu de cette collection et aussi de décrire en fait un peu les modalités des acquisitions. Alors on a reçu pas mal de réponses. Alors je ne vais pas tout expliquer, je vais juste tout simplement vous donner quelques exemples très caractéristiques et essentiels qui soient vraiment très très intéressants. Alors d'une manière générale, tous les départements collectent ce type de sources primaires, mais ce qui est vraiment très 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 intéressant, c'est la collaboration avec les communautés dans le monde entier, pas seulement avec des communautés bien précises aux États-Unis, mais aussi avec des communautés dans le monde entier. Par exemple, mes collègues dans la division de Moyen-Orient, ils collectent par exemple tout ce qui est de communautés assyriennes provenant du monde entier. Ils ont même des contacts en Suède où des communautés en fait se mettent ensemble et ils collectent toutes ces sources primaires très uniques et ils envoient à Harvard. Et c'est comme ça qu'on accumule en fait via des donations ce type de matériel du monde entier. Il y a bien d'autres exemples de la communauté d'autres communautés, par exemple la communauté arménienne qu'on collecte partout dans le monde. Alors ça vraiment nécessite vraiment de créer des réseaux dans le monde entier pour pouvoir le faire. Et c'est très très difficile parce que, comme mon collègue de la division juive explique, parfois ce type de matériel que nous voulons avoir dans nos collections, qui sont absolument uniques, sont vraiment produits vraiment, il y a vraiment très très peu de copies, elles ne sont pas du tout distribuées. Alors il faut quelqu'un de la communauté qui puisse en fait servir de relais en fait de nous fournir ce type de matériel. Alors c'est vraiment très très difficile parce que cela nécessite vraiment de créer des liens et de créer des contacts dans le monde entier pour pouvoir en fait collecter ce type de documentation, ce type de matériel. Voilà, très très rapidement au niveau de numérisation, en fait, on numérise les sources premières qui se rapportent à un sujet bien précis et qui soient dispersées dans des collections, dans toutes les bibliothèques, par exemple, de la bibliothèque de Harvard. Ce projet de Colonial North America Project, c'est vraiment très très emblématique, l'un des plus grands projets de numérisation que nous avons fait. Alors, on a numérisé tous les matériels qui se rapportent à l'histoire nord-américaine, particulièrement du XVIIe et XVIIIe siècle. On a créé, alors ces collections en source, en forme tangible, c'est dispersé partout dans toutes les bibliothèques d'Harvard. Alors on l'a numérisé, on l'a mis une collection, une seule collection numérique qui réunisse tous ces éléments disparates. Alors ça permet vraiment d'étudier, ça crée vraiment un fonds documentaire très très riche qui maintenant est rassemblé en une seule collection. Autrement, ça a été dispersé dans plusieurs dépositoires, ce qui était vraiment très très difficile à étudier pour des étudiants. Alors, tout ce qu'on numérise dans nos bibliothèques, mais aussi dans des bibliothèques universitaires en Amérique du Nord, est automatiquement soumis, déposé dans Digital Public Library or Library of America, ce que vous connaissez probablement. Alors ça, c'est aussi une opportunité unique. C'est l'équivalent de Europeana que vous avez ici en Europe. Alors ce contenu sera ouvert au monde entier pour pouvoir en fait l'étudier et créer des projets là-dessus, de projets différents. Alors ce qui est vraiment très très intéressant, ce qu'ils font au niveau des sources primaires à la Digital Public Library of America, ils créent des collections qui proviennent de bibliothèques différentes un peu partout. Alors, ils réunissent des collections des origines diverses. Ils créent des collections thématiques, ce qui permettra de faire la recherche d'une autre manière. Alors, de réunir en fait des collections de différentes bibliothèques et de créer des sources qui soient vraiment uniques, mais bien plus complètes, parce qu'ils vont au-delà des frontières existantes. Voilà. Finalement, on a tout ce qui est le contenu numérique, ce qu'on appelle ce qui est numérique par naissance, en fait, born digital. Au niveau des sources primaires, alors l'équivalent des sources primaires dans le monde numérique, c'est tout ce qui est des médias sociaux. Alors les blogs, les Facebook pages, les Twitter, etc. Alors, on a eu en 2014, une enquête qui a été réalisée aux États-Unis pour voir en fait les pratiques courantes du préservage du web actuellement aux États-Unis. Et ce qui était très très important et très très intéressant, c'est que pour la première fois, on s'est posé la question par rapport au contenu, la difficulté d'archiver ce contenu. Alors c'est pour la première fois en fait dans ce type d'études, on a vu que en fait ce contenu éphémère qui disparaît sur le web tous les jours, les médias sociaux, a été en fait traité en tant qu'une catégorie bien distincte. Et tous les respondants en fait, ils ont considéré que en fait archiver les médias sociaux c'est vraiment très très difficile. Et ce qui est la chose la plus difficile en fait, ce sont les droits et les permissions en fait à la diffusion. Voilà. Et on peut en discuter après si vous voulez. Aussi une autre chose à mentionner quand on parle de l'archivage du web, archivage des médias sociaux, on le fait pour les générations à venir. C'est devenu vraiment un phénomène omniprésent aux États-Unis dans les bibliothèques universitaires, mais aussi dans les bibliothèques publiques. On archive tout ce qui se rapporte autour des manifestations. Par exemple, vous avez probablement suivi ce qui se passait pendant quelques années passées aux États-Unis, des phénomènes de Black Lives Matter. Alors ça, on a créé des collections un peu partout dans les bibliothèques universitaires, parfois en partenariat avec des bibliothèques publiques, parce que ça crée en fait des liens avec le public. Et ici, ce que je veux illustrer, il y a en fait une coopération entre plusieurs universités qui récemment a reçu une bourse importante de Mellon Foundation pour créer en fait un outil pour pouvoir archiver ce type de matériaux. Alors on voit vraiment, ici, c'est un exemple de l'avenir du développement des collections, ce qu'on va faire. On va se concentrer de plus en plus sur ce contenu et aussi sur des outils. On va créer des outils pour pouvoir capturer ce type de matériel d'une manière de plus en plus efficace. Harvard, ce qu'on fait au niveau des archivages du web, bien sûr, on archive du web en tant que Harvard, en tant qu'institution, mais de plus en plus, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment comment il faut le faire, comment on pourrait le faire d'une manière plus efficace à l'avenir. Alors, actuellement, on est en train de discuter avec des bibliothèques, d'autres bibliothèques universitaires aux États-Unis, essentiellement sur les côtes de l'Est de l'Atlantique, en fait, pour créer en fait des collaborations et faire de la recherche du web ensemble, parce que je pense que ce sera bien plus efficace et pourra apporter bien plus d'avantages à long terme. Il y a bien sûr une controversie dont vous probablement entendu parler d'archivage de tweets. Ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas résolu encore aux États-Unis. Alors, la Bibliothèque du Congrès a fait collecte de tweets dans des sujets différents, en fait. Tout ce qui se rapporte, en fait, à la politique, questions de politique nord-américaine, questions sociales et tout ça. Par contre, la controversie, c'est qu'on ne peut pas ouvrir cette collection, on ne peut pas distribuer cette collection à cause des droits, à cause des permissions. On ne sait pas comment gérer ça. Alors, c'est vraiment une discussion, un débat à suivre, parce que tout le temps, on est approché par des chercheurs, à Harvard aussi, qui veulent qu'on archive des tweets. Mais le problème, on ne peut pas le faire parce que le statut légal, c'est pas vraiment clair comment gérer tout ça de ce côté-là. Alors, on peut en discuter après aussi, si vous voulez. Et maintenant, en conclusion, je voulais juste vous présenter la construction de fonds d'archives sur les attaques contre le Charlie Hebdo en janvier 2015, qu'on a fait un projet bien pratique. On a travaillé avec des professeurs. C'est vraiment un projet, un exemple de collaboration avec des chercheurs qu'on a fait. Alors, au niveau de Genèse, vraiment, l'idée est venue juste après les attentats. On avait deux chercheurs, enseignantes-chercheuses du département de langue et littérature romane qui voulaient créer cette collection. Elles nous ont approchés. Alors moi, un autre collègue, une autre bibliothécaire, on s'est mis en collaboration avec eux. On a eu aussi deux correspondantes en France qui ont travaillé avec nous. On a eu un doctorant de Harvard qui, en fait, était à Lyon, ici, qui a enseigné, en fait. Il a passé un an d'enseignement ici, à l'une de l'université ici. Et on a Lola Mirabai, l'un de vos collègues, qui était étudiante à l'ENSIP, qui a fait un stage chez moi, à Harvard, dans mon département. Alors, après son stage, elle était très intéressée à travailler avec nous. Elle nous a aidé à faire ce projet. Alors, ce qu'on a vraiment voulu faire en créant cette collection, c'était vraiment le but principal, c'était vraiment de préserver des documents qui soient manuscrits, imprimés, digitaux, éphémères, qui étaient produits suite aux attentats. Et vraiment, on voulait se concentrer autour du slogan « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie », documenté d'une manière le plus objectivement possible ce type d'attitude et de perspective opposée. Alors, on voulait aussi documenter les débats qui se produisent en France, juste après les attentats, autour des sujets tels que la liberté d'expression, la relation entre l'État, la religion, la société, le respect des croyances et des opinions, les inégalités, etc. Alors, on était vraiment intéressés à collecter des collections qui, en fait, de matériaux qui ne seraient pas collectés par d'autres bibliothèques, qui risquaient de disparaître si personne ne s'en occupait pas. Voilà, alors ça c'est l'origine. Alors, un objectif très très particulier et très très important pour nous, c'était de créer des archives ouvertes, en fait, ce qu'on appelle open access. Alors, du départ, on a travaillé avec plusieurs personnes. Voilà, ça c'est la slide qui est juste après. On a travaillé avec notre département juridique à Harvard pour créer une licence bien particulière parce qu'on voulait obtenir des droits en fait pour pouvoir distribuer ce contenu qu'on acquiert de donations en fait de particuliers pour pouvoir le distribuer, pour pouvoir le mettre en ligne et ouvrir dans le monde entier. Alors à chaque fois qu'on a une donation provenant soit des individuels ou peut-être des professionnels, des photographes, on a signé ce qu'on appelle une license pour alors la personne qui nous a donné ce matériel, alors donner des droits non exclusifs à reproduire ce contenu. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Alors la personne a gardé tous ses droits d'auteur. On se prenait pas à ça, mais on voulait tout simplement avoir le droit de reproduire ce contenu et de l'ouvrir sur nos sites internet. Alors, au niveau de la collecte du matériel, on a créé une page web avec un formulaire de contribution et on a invité le public en France à contribuer, à nous donner, en fait, ce type de matériel. C'est vraiment très, très difficile au début parce qu'on ne savait pas quoi faire. Comment, en fait, collecter en fait, ce type de matériel en France? Nous, on était aux États-Unis, alors ce n'était pas vraiment très facile. On s'est posé pas mal de questions. Comment faire connaître du grand public ces projets? Comment inciter les gens à contribuer? Ce qu'on a fait, on s'est dit, il nous faut vraiment un grand... trouver des relais. Alors, on a fait un travail de communication importante dans la presse française. On a approché aussi des institutions en France, de communautés des archivistes aussi. Lola Mirabai était vraiment très, très investie là-dedans. Et on a pas mal d'articles dans la presse française qui sont parus décrivant ce que la Harvard était en train de faire. On avait des articles dans les France Bleu, dans les Figaro, dans les France TV Info. En octobre 2015, on a eu même un interview dans Télérama. En janvier 2016, on a fait une petite conférence à Harvard là-dessus, sur en fait, la création de ces archives en France. Et on était vraiment très très chanceux parce que le TV5 Monde, c'est vraiment très intéressant. Ils ont venu en fait filmer la conférence et aussi ils ont fait un petit documentaire là-dessus. Alors ça a vraiment créé pas mal de bruit. Alors c'est comme ça le projet était connu en France. Les gens ont donné en fait leurs documents, leurs éphéméras, en fait leurs sources primaires à nous. On était aussi en relation avec des archives municipales, par exemple les archives municipales de Rennes, de Toulouse, de Saint-Étienne, que eux ils ont collecté pas mal de ce type de ressources autour de Charlie Hebdo. Et ceux qui ont numérisé en fait leur collection nous ont donné leurs fichiers. Alors ces fichiers-là font une partie des collections de Charlie Hebdo à Harvard. On était aussi en partenariat avec, en contact avec la BNF, mais eux, ils ont fait pas mal au niveau des archivages du web, alors on n'a pas vraiment investi là-dedans. On a aussi contacté des associations, des mouvements d'initiatives citoyennes, de groupes Facebook, de professionnels, des artistes, des photographes, tout ça. L'objectif étant vraiment de capitaliser sur l'important travail qui a été déjà fait, le travail de numérisation et de création des bibliothèques numériques contenant ces contenus liés au Charlie Hebdo et en fait s'engager en partenariat entre la bibliothèque de Harvard et les institutions en France. Alors ça c'est le bilan à mi-parcours qui était à peu près il y a un an. Ce qu'on a collecté en fait, des éphéméras imprimées, des éphéméras digitales en fait, le web, et aussi tout ce qui se publie dans des publications courantes, ça aussi, ça fait partie de notre collection. Alors, je vais vraiment très très vite parce qu'il faut qu'on termine. Si vous voulez voir des exemples, en fait, de contributions, cette présentation sera mise en ligne après ma présentation. Alors, comme ça, vous pouvez voir ce lien et voir, en fait, les exemples du contenu collecté. On a fait un peu de l'archivage des web aussi. Si vous connaissez Archivit, vous pouvez voir aussi ce qu'on avait collecté. Mais on n'a pas collecté beaucoup parce qu'on s'est rendu compte que la BNF a fait pas mal de choses. Alors, on ne voulait pas en fait, faire de duplicata de ce qu'ils ont collecté. Alors, maintenant, la collection est toujours en cours de traitement et de catalogage. C'est une collection qui est vraiment très, très difficile à traiter parce que c'est une collection composite. On a des formats différents, elle est multidimensionnelle. Nos professeurs veulent utiliser ces contenus directement dans leurs travaux de recherche. Alors ça aussi, ça complique des choses. Alors on s'est posé pas mal de questions comment le faire. Alors on a eu un débat interne parmi des conservateurs de Harvard, des archivistes, des bibliothécaires, comment acquérir ce type de contenu. les cataloguer et les rendre accessibles au public le plus rapidement possible. Alors, suite à ça, c'est vraiment une première collection qu'on a eue qui est vraiment si différente, avec tant de différentes pièces qui le composent. Alors du coup, ça nous a permis à faire cette réflexion à Harvard et de créer une nouvelle méthodologie définissant le traitement de ce type de collection. Alors maintenant, si on a un autre projet, maintenant, ça sera bien plus facile à l'avenir de pouvoir mettre en place et de collecter, de créer ce type de fonds d'archives. Ça nous a vraiment permis de créer cette nouvelle méthodologie. Alors, où on est maintenant avec cette collection? Alors, on va finir le catalogage et le traitement des documentaires, des archives, à la fin de l'année. On pense de continuer la collecte. On a reçu une petite bourse qui nous permettra de le faire. On voudrait documenter, collecter bien plus du matériel qui se rapporte au « Je ne suis pas Charlie ». Parce que ça, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment, c'était représenté, mais pas tellement représenté. On a eu pas mal de soumissions qui, en fait, témoignaient pour « Je suis Charlie », mais « Je ne suis pas Charlie », c'était bien plus difficile à collecter. Et en plus, on veut participer dans des activités du Centre culturel français de Boston, parce que maintenant, en octobre, on aura pas mal des événements qui liés à ça. Par exemple, juste après, quand je rentre aux États-Unis, on aura une conférence là-bas sur ces archives avec quelques professeurs de Harvard. Ensuite, on a même des travaux pratiques. Quelques professeurs qui enseignent en fait la langue française à Harvard vont enseigner avec ces matériaux. Alors, vous voyez comment ce type de collection, pourquoi c'est si important? Parce qu'on a des professeurs, on a des enseignants qui veulent travailler avec ça directement. Alors, on a ces travaux pratiques. Et on a aussi des gens de partout, des chercheurs de partout, qui s'intéressent à cette collection. Alors, par exemple, en octobre, on aura des invités de CNRS qui vont venir, qui vont parler aussi du côté conceptuel, de création de ce type d'archives et aussi de leurs projets sur, en fait, projet de recherche qui concerne les attaques terroristes en France en 2015. Alors, voilà, comme ça noue, en fait, tous ces éléments ensemble. Ensuite, par la suite, on veut organiser une conférence internationale, probablement à la fin de 2017 ou 2018, en invitant des chercheurs, des archivistes, des bibliothécaires du partout du monde pour discuter de cette thématique. On aimerait aussi développer des partenariats à l'échelle nationale et internationale, peut-être liés de collections comme ça ensemble, créer d'une bibliothèque numérique internationale, peut-être de Charlie Hebdo, ou peut-être sur ce type de sources primaires qui se rapportent au terrorisme. On crée aussi une exposition virtuelle. Et ce qui s'est déjà produit, c'est qu'on aura pas mal de projets de humanité digitale à Harvard, pas mal d'étudiants, de chercheurs qui s'intéressent en fait à utiliser ce contenu dans leurs recherches. Voilà. Alors, le projet Charlie, c'est pas le seul projet qui existe. On a d'autres bibliothèques à Harvard qui ont fait la même chose ou la chose similaire, par exemple. Il y a quelques années, on a créé Digital Archive of Japan, The Disaster, alors le désastre qui s'est produit au Japon. Alors on a fait la même chose. Mes collègues dans les études, dans les départements en fait, de langue slave, font la même chose pour tout ce qui se passe maintenant en Ukraine. Alors ils essayent de collecter ces sources primaires qui se rapportent à ces événements. Vraiment, c'est la guerre civile là-bas, alors c'est vraiment très très important à documenter ça. Et voilà, et d'une manière générale, on voit une tendance globale, générale, ce type de, en fait, des archives, ce qu'on appelle des archives Grief Archive, aux États-Unis, se construisent dans des bibliothèques universitaires un peu partout. Et j'ai donné une présentation récemment là-dessus avec quelques collègues qui ont participé là-dessus pendant la conférence American Library Conference. Et aussi, je vous ai mis quelques liens aussi si vous voulez explorer. Vous pouvez voir ces présentations et aussi voir quelques des exemples de ce type de collection qui reflètent en fait soit des attaques terroristes, soit des attaques à main armée qu'on a eues aux États-Unis récemment. Alors les bibliothèques construisent ce type d'archives. Et voilà, pour conclure, très très rapidement, on voit des opportunités que ce type de sources primaires présente pour les bibliothèques de recherche. Tout d'abord, c'est une opportunité vraiment d'élever le profil d'une institution, son caractère unique. On voit une opportunité d'augmenter sa capacité à attirer des chercheurs du monde entier, de haut niveau, parce qu'on aura des choses qui soient vraiment uniques, importantes. Possibilité en fait de développer en fait des projets de recherche dans des domaines de sciences humaines numériques, de digital humanities. Il y a une opportunité de créer des liens avec des communautés locales, des communautés en difficulté. Alors il y a un aspect politique aussi là-dedans. Et finalement, la possibilité d'améliorer les campagnes de collecte, de fonds d'une institution et de construire un soutien philanthropique à des connexions avec des donateurs, des anciens étudiants, élèves. Alors, vraiment trouver des financements pour créer ce type de collection. Voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous. Alors, maintenant, j'aimerais bien répondre à vos questions, interrogations. Voilà.
Merci beaucoup.
On a 35 minutes. Je vais dépasser un tout petit peu, hein, de 10 minutes ma présentation. Mais... voilà. Oui.
Je voulais savoir si, par exemple, vous aviez, en termes de collection, donc j'ai vu qu'il y avait Je suis Charlie, Je suis pas Charlie, mais est-ce que vous collectionnez, par exemple, les documents éphémères produits par l'État islamique, les documents terroristes qui sont jugés illégaux en France, par exemple, où les documents peuvent faire polémique, etc. Est-ce que vous, comment ça se passe au niveau du droit? Est-ce que vous n'êtes pas... Parce que, par exemple, il y a beaucoup de chercheurs, enfin, quelques chercheurs qui sont, à force d'aller sur des sites dits interdits, dits islamistes, sont poursuivis par la justice. Et comment ça se passe quand on collecte ce genre de documents?
Alors, pour l'instant, on ne les collecte pas, ce type de sites, hein, parce que, pour des raisons, je pense, différentes. Tout d'abord, ça relèverait probablement du département du Moyen-Orient. Ce sont mes collègues qui s'occuperaient de ça. D'après ce que je sais, ils ne le collectent pas. Mais je pense pas que, au niveau juridique, est-ce que ça poserait en fait le problème? On aura probablement un juriste avec nous qui nous guiderait pas à pas de voir quel type de quel type de problème ça poserait au niveau juridique aux États-Unis. Je ne sais pas, est-ce que la législation nord-américaine est la même qu'en France? Et pourquoi ça poserait des problèmes? Si on décide d'archiver quelque chose qui est vraiment éphémère, qui risque de disparaître, en fait, nous, on n'a pas... je dirais qu'aux États-Unis, on ne se pose pas de questions. Je veux dire, on est l'archiviste. Notre mission, c'est vraiment d'archiver. C'est un chercheur de porter le jugement sur le contenu. Alors, en tant que bibliothèque, notre mission, c'est de documenter tout ce qui se produit, toute l'expression personnelle d'une manière ou d'une autre. Si c'est le go, si ça rentre dans les cartes de go, on le documenterait, bien sûr. Et ensuite, en fait, le jugement là-dessus, ça sera par des chercheurs, pas par les archivistes ou les bibliothécaires. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question.
Mais pourquoi actuellement ça n'a pas été choisi? Parce que du coup, il y a d'autres priorités peut-être?
Oui, je pense que tout simplement parce que c'est assez compliqué pour ce qu'on fait. L'archivage du web, on se pose des questions. Est-ce que l'Harvard devrait le faire par nous-mêmes ou est-ce qu'on devrait le faire en collaboration avec d'autres universités? Alors c'est ça qu'on est en train de discuter. Alors du coup, je pense que le sujet comme ça, qui soit vraiment très très intéressant au niveau de la recherche et l'enseignement aux États-Unis, ça va se créer probablement au niveau national, parce que l'archivage du web, ça coûte énormément au niveau, pas seulement au niveau de capture, en fait, de collecte de données, mais pour nous, ce qui est vraiment le plus difficile, c'est de faire l'archivage à long terme. Alors maintenant, on est en train de discuter avec nos collègues d'autres bibliothèques des universités aux États-Unis pour créer en fait une plateforme de préservation à long terme où on pourra en fait déposer tous ces contenus et préserver à long terme. Parce que par exemple, si vous utilisez Archivit ou un autre système d'archivage de web, c'est bien parce que ça, en fait, ça archive, mais ça ne préserve pas. Alors du coup, à Harvard, notre infrastructure existante est développée, mais si on se lance massivement dans l'archivage du web, ça nécessitera en fait de créer une infrastructure bien plus robuste et ça sera peut-être économiquement plus possible. Si on les fait en collaboration avec d'autres universités, ça sera peut-être plus efficace. Alors, c'est pas une décision qu'on a décidé qu'on va pas le faire. Je pense que on s'est pas encore posé la question. Ce qu'on archive maintenant, c'est en fait les priorités qu'on a qui nous proviennent de nos chercheurs, des professeurs et tout ça. Au niveau des archivages du web. Ouais.
Bon, j'ai pas une question, mais je sais pas si c'est une forme de question. Je suis vraiment assez marquée par la différence de conception de bibliothèque par rapport à chez nous, bibliothèque universitaire. Alors, je sais pas ce qu'en pensent les personnes qui sont dans la salle, mais sur deux plans. D'une part, le lien entre bibliothécaire et archiviste. Alors, chez nous, en France, il y a les bibliothécaires, il y a les archivistes. On les connaît pas, ou si peu, voilà. Les documentaires, c'est encore d'autres gens, etc., etc. Et il n'y a pas, sauf de très rares exceptions, genre l'université de Compiègne, etc., de responsabilité des archives tenues par la bibliothèque universitaire. En général, ce sont deux services différents. Donc, par exemple, tout le travail qui peut être fait sur l'archivage des syllabus des enseignants, en fait, on ne le fait pas à la bibliothèque, parce que c'est peut-être gardé quelque part, on ne sait pas où, et puis de toute façon, en France, il n'y a pas d'obligation de créer des syllabus pour les enseignants. Donc on n'a pas ce même potentiel en fait pour la bibliothèque de se saisir de ce type de documents dans une dynamique d'archivage en fait. Voilà. Alors ça pose question, enfin pour moi ça pose la question de comment est-ce qu'on peut justement vis-à-vis des étudiants qui sont ici, des élèves, développer des compétences en archivistique alors qu'on n'est pas nous archivistes. La deuxième chose, c'est que je trouve très intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait intervenir Lydia dans ce cours-là, cette manière de penser la collection comme un service. Et il me semble qu'en France, on a tendance à considérer que finalement, nos collections, elles sont d'abord pour les étudiants, parce que les enseignants-chercheurs, ils n'ont plus besoin de collections, ils n'ont plus besoin effectivement des sources secondaires, etc., parce qu'ils sont beaucoup dans les articles, etc. Et donc, on a tendance à considérer que finalement, la bibliothèque, c'est un espace qui est d'abord pour les étudiants, etc. Et je trouve que dans cette idée-là, de faire de l'archivage des éphémères et des sources primaires, qu'elles soient numériques ou pas, qu'elles soient numérisées ou pas, il y a vraiment cette idée de la bibliothèque qui est au service aussi en termes de collection pour les chercheurs. Et ça me paraît tout
oui,
à fait intéressant.
Chez nous, la question ne se pose même pas. Ouais, c'est ça.
Ouais. C'est une autre, un autre modèle de bibliothèque universitaire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux qui travaillent en bibliothèque universitaire. Dire votre étonnement, votre admiration, votre... ou au contraire, que c'est très bien chez nous, être loin, je sais pas. Ben moi, j'ai envie d'aller là-bas, hein, je vous le dis tout de suite. Hein.
Oui, aux États-Unis, on est vraiment très, très souple. Je veux dire, on est très, très... C'est assez flexible. On a des archivistes dans certains départements, par exemple, dans des bibliothèques de livres rares. On a des archivistes au sens de créer des archives, mais on a la possibilité en fait de travailler sur des archives n'est pas restreinte en fait. De départements comme la mienne, le département comme le mien, en fait, on se focalise prioritairement sur tout ce qui est en fait tout ce qui se publie, tout ce qui est mainstream publishing output. En plus, on fait aussi ce type, on crée aussi ce type d'archives parce qu'on considère que c'est pas, en fait, l'un peut complémenter l'autre. Alors, il faut voir aussi une vision totale. Alors, ce qui se produit au niveau des sources secondaires, les sources primaires peuvent apporter une optique, une perspective différente, complémentaire. Alors, c'est très intéressant pour nous de le voir de cette perspective. Et je pense que le professeur aussi voit ça comme un avantage et une opportunité de travailler avec des groupes, avec des conservateurs, des bibliothécaires qui peuvent faire les deux en fait, et qui peuvent comprendre en fait globalement tout ça.
Une remarque sur ce que vous avez dit, Raphaël, c'est on voit la puissance financière de Harvard avec des acquisitions à plus de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, quelle université, quelle bibliothèque universitaire a ces moyens-là ? On a des projets BSN, ce genre de choses-là, qui développent des grosses plateformes pour archiver de façon pérenne la littérature prise. On se pose dans les questions aussi au niveau des universités sur l'archivage de nos mails, de nos travaux. Mais on en est très très loin. Et est-ce que ce seront les bibliothèques qui auront ces tâches-là, peut-être les services informatiques, ou tout reste à faire encore?
Effectivement, il me semble que c'est une remarque tout à fait pertinente. Cela dit, j'ai visité nombre de bibliothèques universitaires aux États-Unis, et il n'y a pas que Harvard qui fait ça. Genre des bibliothèques publiques font ça aussi, les bibliothèques universitaires publiques, pardon, je veux dire, c'est pas les bibliothèques.
Oui,
d'ailleurs, les bibliothèques publiques aussi.
Oui, c'est ça.
Mais là, j'entendais les bibliothèques universitaires publiques qui ont beaucoup moins de moyens que Harvard, on est bien d'accord. Je crois surtout que ce sont des approches tout à fait différentes. Et alors, effectivement, maintenant, puisque nous, on le fait pas depuis qu'on fait des bibliothèques universitaires, ça demanderait beaucoup de moyens, effectivement, de se mettre à le faire. En revanche, je pense pas que ce soit un problème de moyens à l'origine. Je pense qu'à l'origine, c'est simplement une façon différente de penser les services qui sont offerts, etc. Mais il y a tout un tas de différences qui sont étonnantes quand on part dans les bibliothèques universitaires. Et ça, là, la question des archives, je vous en donne d'autres. Dans n'importe quelle bibliothèque universitaire que j'ai pu visiter, là, à New York, plein de bibliothèques universitaires différentes, publiques ou privées, etc., ils conservent les tracts des BDE, des bureaux des étudiants, par exemple. Parce qu'un jour, bah, qui sait, quelqu'un va peut-être faire de la recherche sur ce que produisaient les associations étudiantes. Bon, ça, mais comme tu dis, tu l'as dit toi aussi, ils ont gardé des tonnes de trucs qui ne sont pas catalogués. Et qu'un jour, on a un financement.
À Harvard, on a tout un département, ce qu'on appelle les archives des universités. Alors, ce sont des archives pour tout ce qui se fait à l'université, pour toute une trace imprimée ou numérique. Alors, leur mission, c'est vraiment archiver, en fait, les emails, tout ce qui se rapporte à la recherche, tout type de documentation par rapport aux cours et tout ça. C'est toute une activité en soi. C'est presque une profession, en fait, aux États-Unis d'avoir des archivistes qui font que ça, qui archivent les activités d'université où ils travaillent.
Donc pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on va changer du jour au lendemain. En revanche, il me semble intéressant, au vu de ce type d'exemple, de se poser la question, alors peut-être pas de faire, mais au moins de se poser la question de comment est-ce qu'on peut travailler avec les archives de l'université, et d'ailleurs, elles sont où les archives de l'université? Parce que pour tous ceux qui ont bossé en BU, moi la première, les archives de l'université, mais j'ai aucune idée d'où elles sont. Ici, je ne sais pas exactement, je crois qu'elles sont dans le sous-sol. Franchement. Donc, cette question-là, déjà, si on commençait juste par se la poser et se demander qui travaille aux archives de l'université et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et quand on fait ce qu'on appelait des GED à l'époque où j'étais en bibliothèque universitaire, pour tout ce qui est valorisation des productions de l'université, est-ce que ce ne serait pas intéressant aussi d'avoir tous les syllabus des profs, de sorte qu'un jour on puisse étudier l'évolution, par exemple, de l'enseignement de la philosophie dans l'université depuis 50 ans? Enfin voilà, ce genre de choses. Et nous, évidemment, on ne fera pas de la recherche dessus, mais il y a bien un chercheur un jour qui va faire de la recherche dessus, et d'autant plus s'il y a des ressources, quoi. Moi, ça me paraît intéressant, en tout cas, qu'on se positionne dans l'université comme pouvant infléchir ce genre de démarche, quoi.
Ce travail, parce que moi je me souviens quand j'ai commencé en bibliothèque, l'objectif c'était d'obtenir des subventions de l'État pour, comme vous l'avez dit, signaler nos collections qui en fait étaient dans les petits tiroirs. Et donc c'était la création d'un catalogue collectif qui s'appelle le Sudoc, qui est petit par rapport au vôtre. Mais est-ce que c'était pas... Et on a peut-être oublié une des missions, oui, comme vous dites, la collecte, alors que c'était plutôt la Bibliothèque nationale, parce que moi j'ai travaillé également à la Bibliothèque nationale, mai 68, qui a été une grosse collection de collectes. Il y a la BDIC aussi, qui travaille beaucoup sur les archives contemporaines, notamment avec des archives sur la guerre d'Algérie, sur les différents conflits. Je pense peut-être que nous, on est peut-être plus éparpillés. Peut-être aujourd'hui, des bibliothèques universitaires lambda, eh bien en fait, oui, comme vous dites, elles travaillent pour les étudiants, mais la relation avec les enseignants-chercheurs, elle est complètement différente. Et même, elle a du mal à s'établir. Et c'est ce qui est un peu frustrant quand on travaille dans une bibliothèque universitaire qui n'a pas cette mission patrimoniale.
Mais peut-être qu'on pourrait l'avoir si justement on développait ce type de service. C'est pour ça que c'est là bien la collection comme service. Hein. Mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que, effectivement, sur des événements nationaux, on a des bibliothèques à vocation nationale, alors qu'elles soient nationales ou la BDIC qui a une vocation nationale là, pour ce type d'archives, qui ont fait ce travail de collecte. Mais le problème, c'est pour ce qui est produit par l'université. Et ça peut pas être la BNF. Forcément, c'est chaque université qui doit regarder vers elle-même. Et on parle de patrimonialisation des universités. On dit en ce moment, dans les 6 missions des universités françaises, il y a bien la question du patrimoine. Et c'est typiquement la question que ne relèvent pas les bibliothèques, autrement que sur le champ de la conservation du patrimoine, c'est-à-dire les livres du XVIe siècle. Quoi. Parce que ça, on connaît un peu. Voilà. Mais sur le reste, on sait pas trop comment faire. Donc on le fait avec les thèses, les masters, les trucs comme ça, etc. Donc on a commencé il y a une dizaine d'années, et c'est déjà très bien, parce qu'avant, vous vous rappelez, hein, c'était dans les étagères et on ne savait pas comment faire. Donc là, il y a un progrès là-dessus, et peut-être qu'on pourrait se dire, bah, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre, voilà, dans ces plateformes.
Je savais que vous aviez des choses à dire.
Je suis encore un peu bavarde. J'avais discuté avec un ami bibliothécaire à Londres, Warburg Institute, et il m'expliquait que la vision du bibliothécaire en France était complètement bizarre. Lui était spécialiste en fait en histoire de l'art et il travaillait dans une bibliothèque d'histoire de l'art. Et c'est peut-être aussi un problème de formation, ce détachement qu'on a. J'ai un collègue qui a été nommé par exemple à la bibliothèque de droit, il n'en a jamais fait. Moi aussi je vais traiter du droit animal, j'ai même pas un chat. Ça pose, voilà, il y a peut-être un détachement trop important, peut-être. Je pense pas que ça soit un investissement parce qu'on est tous, on se sent tous responsables, mais il y a un détachement par la connaissance. Il y a peut-être ça aussi qui rentre en compte.
Ça nous étonne beaucoup, hein, à chaque fois, parce qu'aux États-Unis, il faut avoir un master, tout au moins, dans des bibliothèques comme Harvard, un doctorat, en fait, dans la discipline dans laquelle on travaille. Alors ça, c'est vraiment l'essentiel. Sans ça, plus un master en sciences de l'information. Alors c'est ça, en fait, quand on recrute de gens, maintenant, c'est ça, c'est l'exigence. C'est le master en sciences de l'information, plus un doctorat ou un autre master. Alors c'est devenu vraiment un standard parce qu'on n'imagine pas comment on peut travailler avec ces collections si on n'a pas travaillé dans cette discipline soi-même, qu'on n'a pas fait jamais de la recherche. Comment on peut en fait s'investir et créer des liens avec des professeurs, des enseignants qui travaillent dans ces disciplines si nous-mêmes, nous n'avons jamais travaillé là-dedans.
Alors c'est vrai que là encore, je fais le lien avec les enseignements que j'ai avec les masters là, en ce moment sur les notions de service, mais... Là encore, nous, la raison et l'explication, c'est parce que ce sont des postes de fonctionnaires et qu'une des contraintes qui, à la fois, on peut la voir positivement ou négativement, mais c'est aussi l'exigence de continuité du service public. Tout fonctionnaire doit pouvoir assurer le service. Donc, vous êtes spécialiste en droit, ben, vous pouvez acquérir en droit, mais vous êtes spécialiste en philo, vous pouvez acquérir en droit. Et donc, on considère finalement que nos compétences, et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut se poser, c'est pour ça que moi, je milite pour que les bibliothécaires, au sens général, fassent un petit peu de recherche, ou en tout cas une réflexion un peu problématisée sur notre métier, parce que ça veut dire qu'on est d'abord des techniciens. Enfin, il faut l'admettre dans ce cas-là, quoi. Voilà, donc c'est pas un problème. Il y a plein de bibliothécaires qui s'y retrouvent parfaitement là-dedans avec l'idée qu'on est des techniciens. Aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, mais dans plein de pays en Europe, ce ne sont pas considérés comme des techniciens, ce sont d'abord des scientifiques. Donc,
chercheurs d'abord, ensuite on développe des compétences de conservateurs, de bibliothécaires. Par contre, les techniciens, ce sont des collègues qui travaillent dans des unités de support, en fait, dans des départements des acquisitions, de catalogage, de traitement de collection. Alors, c'est ça peut-être la différence de statut et de niveau, en fait, à laquelle on emploie.
Cet été, je vous passe la parole après, cet été à l'IFLA, je faisais une interview de bibliothécaires qui étaient là à l'IFLA. A priori, à l'IFLA, c'est quand même des bibliothécaires, on est bien d'accord. Donc les gens sont là et je leur demande, et alors vous avez fait quoi dans votre bibliothèque pour tel sujet, tout ça. Et il y en a une qui me dit, ah, moi je ne peux pas répondre, je ne suis pas bibliothécaire. Alors je dis, ah bon, vous êtes quoi? Alors qu'est-ce que vous faites à l'IFLA? Vraiment, je m'étonne. Et elle me dit, bah, je suis catalogueuse. Je dis, et alors, c'est pas bibliothécaire ça? Et donc c'était une américaine. Et elle me dit, non, c'est pas bibliothécaire. Et je dis, quand même un peu, non. Et donc on a eu toute une discussion et c'est vrai qu'elle, elle ne considère pas qu'elle est bibliothécaire.
Oui, mais est-ce que c'est pas non plus la rivalité, enfin, la forme de rivalité, enfin, je ne sais pas si c'est forme, le terme, mais ITRF, personnel ITRF et la filière bibliothèque. Parce que quand on veut nous associer, parce que vous dites très justement, hein, et c'est même quand on travaille en bibliothèque universitaire, c'est très fort. Ingénieur, technicien, ingénieur d'études, de recherche, technicien, on a cette filière-là, hein, qui est plutôt scientifique. Et ensuite, on a filière bibliothèque ou bibliothécaire, il y a une déontologie et une appartenance très forte. Et dès qu'on nous parle d'être assimilé à ce corps, la BAF de l'université, on lève les bras en disant « Ah non, nous, on est des métiers bien spécifiques. » Est-ce que nous aussi, on n'a pas créé
C'est vrai, mais alors attention, dans les ITRF, on en a en bibliothèque universitaire, et souvent, ils sont catégorie B. Et ils sont, qu'on appelle ça, catalogueurs, spécialistes. Pas forcément, mais il y en a beaucoup. Et c'est pas toujours des ingénieurs de recherche. En revanche, les conservateurs, on est personnel scientifique et pas les bibliothécaires. Je veux dire, il y a, ce qu'on vous disait l'autre jour, il y a des espèces, l'identité de métier, on a un corps bibliothèque, mais en vrai, si on réfléchit à l'identité de métier, c'est pas si évident que ça. Enfin, c'est assez flou, quoi.
Mais souvent, les personnels ITRF,
En tout cas, ça pose question, ce choix. Parce que si on voulait vraiment nous mettre tous sur les disciplines sur lesquelles on a été acquéreur. Alors d'abord, il y en a un certain nombre d'entre nous qui ont fait par exemple des études de philo, puis qui se sont dit, justement, j'aimerais bien ne plus faire de philo de ma vie. Et donc c'est pas pour une fois qu'on bibliothécaire se retrouver à être à nouveau dans les collections de philo. C'est quand même une chance qu'on a, nous, de pouvoir s'échapper du truc qu'on a choisi malheureusement à 18 ans. La deuxième chose, c'est à l'inverse, si jamais vous voulez absolument être sur la philo parce que vous avez fait philo, sur le droit parce que vous avez fait droit, etc., qu'est-ce qu'on fait des collections de sciences? Parce qu'en France, les scientifiques, s'il y a bien un truc qu'ils font pas, c'est être bibliothécaire, quoi. Et donc, ça, c'est aussi lié à la forme du concours, parce que chez nous, un concours, c'est faire des dissertations. Hein. Et en sciences, c'est pas trop ça, les dissertations. Voilà. Donc, c'est ça aussi le problème. Ce que je veux dire, c'est que pour changer ce que vous dites, c'est pas qu'une question de comment on se forme ici, une fois qu'on a le concours, c'est aussi une question de la forme des concours, c'est la question des concours dans la fonction publique tout court. Et c'est la fonction publique tout court, voilà, c'est vous qui l'avez dit. Donc effectivement, mais ça pose un certain nombre de questions qu'on ne peut pas régler comme ça et qui relèvent vraiment de la culture française, de ce que c'est que le service public. Quoi. Alors, est-ce que vous avez d'autres commentaires, maintenant qu'on a réglé le cas de la fonction publique? Non? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci Lydia, vraiment, merci beaucoup. Tu vois, ça nous amène à réfléchir. On a tout changé dans le métier, c'est fantastique.
Merci beaucoup, merci. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez me rencontrer cette semaine ou la semaine prochaine. Je serai ravie de discuter avec vous, soit en groupe, soit individuellement. Alors n'hésitez pas. Merci. Encore merci.